Moi, c'est André Lumbumbay au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. La Voix des Sans-Voix, une ONG nationale de défense des droits de l'homme, plaide pour le règlement de la dette de la SNEL et de la Régie des Eaux par le gouvernement congolais. Ce plaidoyer relance donc le débat autour de la problématique de la dette intérieure de l'État vis-à-vis des entreprises publiques et autres particuliers. À ce jour, la dette publique intérieure est évaluée à plus de 800 millions de dollars américains. Quel regard portez-vous sur ce plaidoyer et comment commentez-vous cette problématique ? Composez les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Tete Poutou, Nadine Foula et Willem Lungamba réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315. Ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ces studios M. Marco Bangouli, ministre honoraire de Finances en RDC. M. Marco, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors, la dette publique, comme je l'ai dit, est évaluée à plus de 800 millions de dollars. Plusieurs gouvernements se sont succédés et n'ont pas pu procéder au remboursement de certaines de ces créanciers, de ces créances. À quoi serait due cette incapacité?
Merci J.R. pour la problématique de la dette publique que nous allons aujourd'hui partager avec le public, ceux qui nous suivent. Je commencerai d'abord par dire que je n'affirme pas le chiffre que vous venez d'avancer de plus de 800 millions de dollars, parce qu'il y a deux ans, on parlait, l'OGDEP certifié à plus de 1,5 milliard de dollars de dette publique. Intérieure.
Un milliard de dollars et demi,
environ. La dette publique, il faut d'abord la comprendre, c'est quoi ? Tout à l'heure, vous avez, dans l'énoncé, parlé de la SNEL, la Régie des Eaux, ce n'est qu'une partie, c'est-à-dire la dette publique comprend trois composantes principales. La dette publique intérieure, c'est-à-dire ce que l'État doit aux agents économiques de son pays. Il y a la dette sociale. La dette sociale, ce sont les salaires non payés, les primes de sortie, aussi bien pour les cabinets politiques, pour les membres du Parlement, pour différents les professeurs qui n'ont pas été payés, etc., les fonctionnaires. Donc ça, c'est la dette, on appelle la dette sociale, la dette publique intérieure sociale. La deuxième composante, c'est la dette publique commerciale. Et là, ce sont les différentes prestations des agents économiques du pays à l'État et sur lesquelles l'État, les agents économiques détiennent des créances sur l'État. Et c'est là où on parlerait éventuellement de la Régie des Eaux, d'autres entreprises publiques et des prestataires privés qui ont vendu, qui ont construit
des fournisseurs
pour compte de l'État. La troisième composante, c'est la dette fiscale intérieure. Il arrive malheureusement que l'État, dans les mécanismes de fiscalité qu'il a mis en place, se met dans une situation où c'est l'État qui doit aux opérateurs économiques. Prenons l'exemple très simple, la TVA qu'on a instaurée, est un mécanisme qui implique la déductibilité de l'impôt à un certain niveau, parce que la TVA n'est pas cumulative. Mais il se fait malheureusement que le mécanisme mis en place est difficile à faire fonctionner et que l'opérateur économique à qui l'État reconnaît le droit de déduire la TVA, eh bien, ne arrive pas à récupérer la TVA auprès de l'État. Et donc, c'est là, et à un moment donné, avant la TVA, on avait ce qu'on appelait ici le crédit d'impôt, avec
sur le chiffre d'affaires.
Voilà, on a connu de graves problèmes sur les crédits d'impôt, parce que justement, des opérateurs économiques avaient des droits sur l'État, et en matière de fiscalité,
et que l'État n'a pas pu honorer, et ça rentre aussi dans la dette intérieure. Mmh. Et donc ce sont ces trois composantes qui arrivent à des chiffres assez importants quand même, que ce soit 800 millions ou 1 milliard. Mmh. Qui quand même représente une fraction importante de notre budget.
Oui, vous avez été aussi ministre des Finances. Ma question tout à l'heure était de savoir, plusieurs gouvernements se sont succédés et n'ont pas pu résoudre ces problèmes.
Concernant le paiement de la dette intérieure, la dette intérieure d'abord au niveau de crédit budgétaire, elle est payée sur un exercice budgétaire. Un exercice budgétaire commence en janvier et se termine fin décembre. Au moment de la loi des finances, sur proposition du gouvernement, et après que l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, ait décidé, et le président de la République promulgué la loi des finances, on arrive à adopter la quotité qui est réservée à la dette intérieure. Bien. La dette intérieure est composée des créances que les opérateurs détiennent sur l'État l'année avant. Nous sommes par exemple pour
le 2013.
Concret, en 2013, il y a eu des créances générées en 2012 et qui n'ont pas pu être honorées dans le crédit, les budgets de 2012. Arrivé à fin 2012, la quotité de cette créance de 2012 passe en 2013. La loi des finances autorise qu'on puisse faire cette translation, c'est-à-dire l'année N moins 2, ou moins 2 suivant certaines lois, mais c'était moins 1, qu'en 2013, on puisse encore payer les créances détenues sur l'État, qui ont été déjà, qui ont suivi toute la procédure de la dépense publique, en 2013. Et en 2013, il y a aussi... On ne peut pas parler des dettes intérieures en 2013, parce que 2013, ce sont des crédits qui doivent avoir été engagés, liquidés, ordonnancés et payés en 2013. Mais lorsque fin 2013, ces créances n'ont pas été honorées, elles passent en 2014. Eh bien, c'est ça qu'on appelle dette intérieure. Mmh. Or, il se fait malheureusement qu'il y a des cumulations de cette dette, parce que au lieu de se limiter à l'année N moins 1 ou moins 2, vous avez des créances détenues sur l'État déjà depuis de nombreuses avant 2010 et qui continuent à gonfler le montant de la dette intérieure. Or, aucun budget qui n'est qu'une fraction d'une année ne pourrait supporter le poids de tous ces arriérés. Voilà la première difficulté. C'est qu'on arrive au cours d'un exercice budgétaire de 2013.
On se retrouve avec des créances cumulées.
Vote un crédit, je prends l'exemple, un milliard de francs, ou mettons, puisqu'on parle d'un dollar pour la plus grande compréhension de tous, mettons, on met, je sais pas, 500 millions de dollars. Mais 500 millions de dollars ne peuvent pas satisfaire toutes ces dettes cumulées des nombreuses années. Voilà la difficulté qu'on a.
Voilà. Alors on va revenir à ça, et surtout la deuxième question, avant d'accorder la parole à Omar, Théodore qui est en Bujima également. En 2005, par exemple, la Banque mondiale, dans les cadres de son appui au gouvernement congolais, avait débloqué 42,5 millions pour le paiement de cette dette. Semble-t-il que cette dotation était insuffisante pour permettre au gouvernement de faire face à cette dette intérieure? À cette époque-là, vous étiez encore ministre.
Voilà, vous évoquez un cas que j'essaie de me souvenir, parce que j'étais
en 2005,
aux affaires, en 2005. Effectivement, la Banque mondiale nous avait alloué une quotité, je pense que ce chiffre doit être correct.
C'est par 42 millions,
pour payer les créances des opérateurs économiques privés auxquels l'État devait de l'argent. Et je me souviens qu'on a négocié avec l'AFEC, à l'époque. Nous avons eu plusieurs réunions pour dresser la liste des bénéficiaires de ces paiements et lesquelles créances devaient être certifiées par l'OGDEP, enfin suivre toute la procédure. Et enfin, on avait mis en accord avec la Banque mondiale une cellule qui était attachée au ministère des Finances, qu'on appelait CDPI. Et cette cellule avait procédé donc à des paiements en accord avec la...
Les opérateurs économiques,
auxquels d'ailleurs je me souviens on a même demandé une certaine réduction de leur dette, pour accéder à cette facilité, il fallait une décote. On te devait 100, puisque l'État était incapable de payer.
L'élection des 6,5, voilà, c'est la formation, bon, 6%, avec 5.
Vous abandonnez une partie de votre droit pour pouvoir accéder à cette facilité de paiement. On a fait, je me souviens de mon époque, nous avons payé ce montant aux opérateurs économiques. C'est dire justement, si la Banque mondiale devait intervenir, c'est dire justement la difficulté pour le gouvernement de faire face à des dettes cumulées. Et en matière de dette intérieure dans notre pays, elle s'est augmentée encore, cette dette, avec les aryanisations par exemple.
On va revenir à vous, M. Marco Bangouli, ministre honoraire des Finances en RDC. Il est temps d'ouvrir cette première série des auditeurs avec Omar qui est à Kinshasa, Théodore Ambujimaï et Maître Gaston à Kinshasa. 081-890-49-69.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous prenons Omar qui est à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour beaucoup, J.R. Lungembo, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Voilà, vous avez la parole, vous avez suivi notre invité tout à l'heure. Nous avons également suivi l'actualité, la Voix des Sans-Voix. Une ONG nationale des défenses des droits de l'homme plaide pour le règlement de la dette de la SNEL et de la Régie des Eaux par le gouvernement congolais. Alors, ces plaidoyers relancent chez nous donc les débats autour de la problématique de la dette intérieure de l'État vis-à-vis des entreprises publiques et autres particuliers. Alors, j'ai dû quand même donner un chiffre tout à l'heure. Donc, à ces jours, la dette publique intérieure est évaluée à plus de 800 millions de dollars, et notre invité a confirmé que ça avoisinait autour de 1 milliard pratiquement de dollars. Quel regard portez-vous sur ces plaidoyers et comment commentez-vous cette problématique?
Merci beaucoup, J.R. L'honnêteté intellectuelle me pousse à féliciter M. Marco Bangouli, que j'ai découvert aujourd'hui comme un grand économiste, lorsqu'il est en train de disséquer les différents dossiers intérieurs. Alors, je voudrais aussi saluer ces rapports de l'ONG Sans Voix, qui est en train d'interpeller le gouvernement congolais et de réveiller la conscience des Congolais. Mais je voudrais paraphraser Adam Smith, qui est un des grands économistes que le monde a connu, qui disait « La dette, qu'elle soit intérieure ou extérieure, décrédibilise un État et appauvrit davantage la population. » Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise pour nous Congolais. Mais une chose est de critiquer un fait, une autre est de savoir quelles en sont les causes. Premièrement, M. J.R. Lungombe, je crois que M. Marco Bangou ne va pas me contredire. La plus grande cause, c'est aussi le non-respect des principes budgétaires. Chaque année, on a toujours des excédents budgétaires. Que veut dire l'équilibre budgétaire? Il faut que les ressources générées puissent correspondre aux dépenses. Mais dans notre pays, chaque année, il y a toujours des dépenses d'excédents. Et c'est l'une des causes qui fasse que nous puissions toujours nous endetter. Deuxièmement, mais l'une des causes qui fasse que nous puissions toujours avoir des dettes, c'est la mauvaise gestion des finances publiques. Si le temps...
Voilà, dommage. Omar, si vous pouvez peut-être changer votre position, là je reviens encore pour dire, si vous êtes dans une salle, prière de quitter quand même cette salle pour nous permettre d'avoir une bonne communication. Voilà, dommage. Il est temps que la ligne puisse s'arranger. On prend Théodore qui est en Bougimaï. Théodore, bonjour.
Bonjour, Jean.
Vous avez la parole, Théodore.
Merci. La loi sur la finance est très nécessaire dans chaque État qui est organisé. Nous sous-entendons le trésor public. Un État organisé doit connaître l'état financier de ses entreprises et de son personnel, et voire même des projets pour le développement auxquels il faut fournir de l'argent, fournir des fonds, des capitaux auprès des entreprises publiques et privées. Le Parlement traîne les pieds. Pourquoi? Vous savez, quand on trouve que l'État contracte des dettes vis-à-vis de sa population en matière de salaire, matière économique, et puis il y a des dettes que l'État doit, mais ne se retrouve pas, ne se retrouve incapable de payer. Permettez-moi de donner un petit exemple de l'ANIBA ici chez nous. On doit à l'ANIBA beaucoup d'argent. Depuis l'entrée de la FLEL, vous savez, il y a eu l'effort de guerre, c'est l'ANIBA qui a financé la guerre. Mais aujourd'hui, cette dette est vraiment élevée. Mais chose étonnante aujourd'hui, au lieu de payer des dettes des employés basés pour les salaires, ou bien donner, on avait donné 10 millions de dollars, on avait promis 20 millions, on a donné 10 millions, il reste 10 millions à donner pour payer les ingénieurs qu'on sort, on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, chose étonnante, il y a un arrêté ministériel qui vient de sortir récemment pour lotir encore les terrains de la NIBA. Au moment où nous attendons peut-être qu'on peut réhabiliter la NIBA, mais on veut lotir, par les biais des chefs coutumiers, on veut lotir les terrains de la NIBA. C'est ainsi que nous disons que, à partir de la décentralisation, on devrait faire beaucoup de choses. À partir des provinces, on devrait rétrocéder les 40%, ça n'a pas eu lieu. On pouvait, par exemple, financer les entreprises, cela n'a pas eu lieu. Les problèmes de la SNEL et de la Régie des Eaux, ici en Bougiman, nous avons deux groupes électrogènes que la Régie des Eaux a érigé là-bas à Loukélingue pour seconder la MIBA, parce que comme l'électricité à la MIBA, ça cause des problèmes. Il y a deux groupes neufs à électrogène qui traînent là-bas, et par manque de carburant, le gouvernement n'arrive pas à s'organiser pour que quand le courant de la MIBA n'est plus, qu'on puisse ravitailler, par exemple, les autres groupes électrogènes. Au moment où je vous parle en Bougiman, il y a une semaine, grâce à la pluie, le Seigneur est grand. Il y a la pluie qui tombe, nous avons seulement l'eau de la pluie.
Voilà, donc si voilà. Je comprends bien, l'État doit beaucoup d'argent à la MIBA, mais au lieu de s'employer à pouvoir régler cette dette, l'État est en train encore de tuer la MIBA. Vous avez évoqué un cas, donc le lotissement de ce terrain qui appartient à la MIBA. Merci beaucoup, Théodore, d'avoir appelé de Mbujimaï. Nous prenons Maître Gaston qui est à Kinshasa. Mais avant de prendre Maître Gaston, on va d'abord raccorder la parole à Omar, qui parlait tout à l'heure, de la plus grande cause qui concerne donc l'excédent budgétaire et aussi la deuxième cause, la gestion des finances publiques. Omar, vous êtes avec nous.
Merci beaucoup, JR, de me relancer. J'espère que maintenant ça va.
Oui, allez-y.
Oui, je disais donc la plus grande cause, c'est le non-respect du principe de l'équilibre budgétaire. Ces principes voudraient que les ressources récoltées puissent correspondre aux dépenses faites. Mais nous remarquons de la part de nos dirigeants, il arrive qu'ils fassent des dépenses économiquement non utiles et lorsque ces dépenses ont été affectées, on revient, il n'y a plus rien à la caisse de l'État, on est obligé de s'endetter. Et deux, il y a un problème de mégestion des finances publiques. C'est aussi l'une des causes JR. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à bien gérer les finances récoltées, on aura toujours des dettes. Et enfin, il y a le manque de volonté politique. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas la volonté de payer, on n'arrivera pas toujours à payer. C'est comme un privé qui a une dette de quelqu'un, il peut avoir l'argent mais n'a pas la volonté de payer.
Oui, voilà, Omar. On ne sait pas le vérifier parce que nous attendons parfois par-ci par-là, au travers de propos tenus par certains collectifs de créanciers ou encore des débiteurs, des gens qui, en fait, ont des créances sur l'État. Donc, dire que voilà, ils sont parfois victimes de ce qu'on appelle le pourcentage. Le 20%.
Oui, nécessairement, c'est cela. Donc, nous avons parlé là de manque de volonté et la mégestion. C'est-à-dire, l'État a votre créance et on vous demande un pourcentage. Ça, c'est une mauvaise foi et ça mérite d'être traité. Donc, il y a un problème de manque de volonté de payer les dettes de l'État. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer, JR, pour que cela mette fin, petit à petit? Premièrement, il faut qu'on procède au respect des principes budgétaires. Nous avons l'annualité, nous avons l'équilibre budgétaire. Je crois que l'invité pourra compléter. Le respect de ces principes pourra faire qu'on ait moins de dettes. Des deux, l'on a toujours dit, c'est même un principe de la bonne gouvernance lancé par la Banque mondiale. Il faut qu'il y ait un contrôle des gestions des finances publiques. Qu'est fait le Parlement? Il ne fait rien. Qu'est fait la Cour de compte? Ils ne font rien. Aussi longtemps que le contrôle n'est pas approprié, ceux qui gèrent continuent à gérer mal et on a trop de dettes. Et pour finir, JR, il faut qu'il y ait la volonté de la part de ceux qui doivent payer. Nous félicitons le gouvernement actuel. Mais nous pensons qu'avec beaucoup de volonté encore, on pourra assainir la dette. Et pour finir, je voudrais poser deux questions à l'invité, si vous permettez.
Allez-y.
Oui, il a parlé de trois dettes, dette sociale, dette commerciale et dette fiscale, mais je n'ai pas bien maîtrisé la dette fiscale.
Ok, d'accord.
Et puis, je voudrais finir. M. Bangoula a aussi été ministre. Nous sommes très contents qu'il avance et heureux aujourd'hui. pourquoi n'a-t-il pas appliqué cette théorie quand il était ministre des Finances? Voilà ma seule préoccupation.
Voilà, merci beaucoup Omar pour votre information. Là, nous avons, à moins que notre source puisse nous trahir, la confirmation du gouverneur de la Banque Centrale du Congo qui est intervenu à la suite de l'annonce du chef de l'État lors de son dernier discours au Congrès de conjuguer les efforts pour rembourser la dette intérieure. Donc Deo Gratia Mutombo apaise l'esprit des Congolais. Il précise que cette opération se fera accompagnée de mesures d'encadrement afin de garder la stabilité du cadre macroéconomique. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maître Gaston.
Bonjour.
Vous avez la parole Maître Gaston.
Disons d'entrée de jeu, remercions d'abord ceux qui nous encouragent, notamment le commandant Mandonga David qui nous suit à ce moment. Mais je voulais aussi dire qu'aujourd'hui, je dois parler de la TVA à PZR, à Mirador, toujours pour l'intérêt de notre population. Bon, j'aimerais poser quelques questions. Voilà, pourquoi l'État n'arrive pas à honorer ses engagements disons, dans ce sens du thème d'aujourd'hui, dans le sens du thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est insolvable ou c'est la mauvaise volonté politique? Et puis, de l'autre côté, l'État aussi des dettes. Il y a des gens aussi qui sont redevables envers l'État. Mais l'État n'arrive toujours pas à mobiliser ces dettes-là. Et voilà. Et puis, je voulais savoir, en ce qui concerne le sujet du jour, bien que je ne base pas vraiment mon argument sur ce qui a été publié par l'ONG, mais je me contente...
Oui, par la voix de sans voix, oui.
Oh, oui, je me contente du sujet qui en quelque sorte, vient nous faire voir que l'État n'honore pas ses engagements, surtout envers cette... Je voulais savoir cette dette-là qu'on fait allusion, ça date de la période où la régie des dettes était considérée comme une entreprise publique ou... C'est une société commerciale, ça vous l'ignorez pas. Et puis nous savons que bien qu'une société commerciale, mais jusque-là, c'est l'État qui est l'unique actionnaire. Donc je pense pas que l'unique propriétaire peut encore, même s'il consommait ses propres trucs jusque-là, parce que lorsque la régie était considérée comme une entreprise, on suppose que c'était un service public qu'on rendait, l'État utilisait toujours ces services-là dans le cadre de rendre toujours les services. Mais aujourd'hui, c'est une société, on suppose que l'État, lorsqu'il consomme, il doit en quelque sorte payer comme toute autre personne, bien que nous savons que c'est l'unique actionnaire, bien qu'une société actuellement au Congo, nous nous demandons, est-ce que la régie des eaux, c'est une société commerciale ou ça demeure toujours une entreprise? Parce que jusque-là, par rapport à notre droit, une société, on ne peut pas trouver une société avec un associé, voilà. Et puis, est-ce que c'est les droits de l'OADA? Parce qu'au droit de l'OADA, c'est possible. C'est les droits de l'OADA qu'on essaie un peu d'appliquer parce qu'on appelle ces institutions-là jusque-là, les sociétés civiles, les sociétés commerciales. Je veux savoir, l'État, qu'est-ce que l'État attend pour des intérêts, disons, liquider, à mon avis, liquider et puis commencer à émettre les actions pour que d'autres particuliers pouvaient venir s'associer à ces entités-là qu'on appelle actuellement les sociétés commerciales. Voilà, ce sont toutes ces lacunes-là que nous n'arrivons pas à comprendre.
Oui, Maître Gaston, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Claude pour terminer cette première série des auditeurs. Claude, vous êtes avec nous toujours dans la même ville que Maître Gaston. Bonjour.
Bonjour, Jules.
Vous avez la parole, Claude.
Oui, presque tout a été dit par mes prédécesseurs. Surtout les cas de la Mibam Boujimaï. C'est pratiquement le même cas avec les lacs, les lignes aériennes congolaises. Cette société qui a fait la pluie et le beau temps, qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Mais l'État congolais doit beaucoup d'argent à cette société. Les agents de lignes aériennes congolaises sont clochardisés. Ils sont sans salaire. Beaucoup sont foutus à la retraite sans leurs indemnités. Plus de 200 mois d'arriéré de salaire. Alors que ces gens ont travaillé pour la nation. Mais que fait notre État? Pour moi, c'est très simple. L'État est un mauvais payeur. Vraiment un mauvais payeur.
Donc pour vous l'État est un mauvais payeur.
Oui,
Allez partout, pratiquement dans toutes les institutions, vous allez trouver que l'État doit de l'argent. Aux cliniques universitaires, à Mamayemo, un peu partout, l'État doit de l'argent là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'État a beaucoup d'argent, mais l'argent s'échappe dans les poches des gens. Je venais de suivre une émission sur votre radio tout à l'heure sur la fiscalité. Vous avez entendu comment tout le monde s'est plaigné que l'argent va dans les poches des gens.
Mmh.
Et si on parvenait à boucher tous ces trous, on va renflouer les caisses de l'État et l'État sera payé presque toutes ses dettes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Claude, rapidement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a d'autres personnes qui attendent et l'autre invité doit répondre.
Les mêmes gens qui vous révoquent, qui vous nomme et qui vous complique encore, de telle sorte que vous ne parveniez pas à travailler.
Voilà, merci beaucoup.
Vous nommez un ADG et vous ne lui donnez pas les moyens, les dettes vous ne payez pas. Comment ça?
Claude, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. Nous revenons à vous, Marco Bangouli, ministre honoraire de Finances à l'RDC. Vous avez suivi les uns et les autres. Beaucoup d'appréhension et beaucoup de critiques par rapport à ça. Bon, au fait, chacun a le regard par rapport à ses plaidoyers de la voix de son voix. Et aussi un commentaire sur la problématique. Alors, comment vous réagissez par rapport à ces interventions?
Multiples questions ont été posées. Difficile de pouvoir répondre après 20 minutes. D'une manière spécifique à chacune de ces questions, globalement.
Je prends Omar qui parle par exemple de non-respect du principe de l'équilibre budgétaire et aussi la gestion des finances, et il a évoqué également le manque de volonté politique.
Je crois que c'est un des chapitres importants que je vais aborder. La dette intérieure publique, d'abord la dette publique. Il ne faut pas considérer l'endettement d'un État comme une opprobre. Non. Tous les États du monde s'endettent, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'intérieur, en émettant des bons de trésor auxquels peuvent souscrire des opérateurs économiques qui détiennent des liquidités. Donc, l'endettement est un processus normal dans les finances publiques d'un pays. Mais là où les inquiétudes de notre correspondant s'exprime, c'est la manière de gérer les finances publiques. En ce qui concerne la dette intérieure publique, il faut d'abord que nous nous mettions d'accord sur les origines de ces dettes. Pourquoi il y a un endettement public aussi important, qui chaque année ne correspond pas au volume de crédit prévu pour le paiement de la dette? Le problème commence, et là je partage les préoccupations de ce correspondant qui parle pas la mégestion, mais mettons la manière de gérer les finances publiques, le respect des règles budgétaires. Lorsque la loi des finances établit des crédits pour chaque ministère, il revient à chaque ministre qui est gestionnaire des crédits qui sont alloués à son département d'engager des crédits à la hauteur. D'engager des dépenses à la hauteur des crédits qui sont réservés à son ministère. Il arrive déjà à ce niveau-là, malheureusement, qu'il y a des dépassements des besoins par rapport aux crédits qui ont été alloués au ministère. Il est difficile, au niveau de celui qui gère les finances publiques, c'est-à-dire le ministre des Finances, de dire à ses collègues ou d'intervenir dans la gestion de son département. Mais la discipline budgétaire devrait commencer à partir déjà de ceux qui engagent les dépenses, c'est-à-dire les différents services bénéficiaires des crédits. Et hélas, déjà à ce niveau-là, les engagements sont au-delà des crédits réservés. Eh bien, cet excédent d'engagement va créer une dette l'année suivante. Deuxième cause de cette dette. Les montants, et ça, le ministre des Finances que j'étais, je suis intervenu plusieurs fois, et c'est pour ça que j'ai eu d'ailleurs des problèmes avec certains opérateurs économiques. Les inspecteurs des finances auxquels j'ai demandé la certification de certaines créances ont remarqué, et j'ai agi pour couper court à ces pratiques, des surfacturations des fournisseurs de l'État qui allait au-delà des prestations fournies. Et là, malheureusement, bon, c'était engagé déjà, mais même si c'est engagé, liquidé, nous avons eu à freiner
à ne pas payer ces factures. D'autant plus que la plupart des sous-facturations étaient issues des marchés de gré à gré, qui n'ont pas respecté la procédure de passation de marché public. Eh bien, nous sommes contents.
Oui, il y a une auditeur qui a parlé. Pour accéder d'ailleurs à ce paiement, il faut, disons, accepter de laisser les 20%. En fait, c'est une sorte de corruption.
On le dit, la corruption est à l'homme, c'est que la fraude est à l'impôt, c'est-à-dire collée à l'homme, comme disait Giscard d'Estaing à un moment donné. Je ne nie pas, mais je vous dis, en ce qui concerne la corruption, moi, j'ai eu des problèmes en tant que ministre des Finances, je le dis aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai quitté, avec le secteur de construction.
Les fournisseurs.
Les problèmes que j'ai eu, c'était les secteurs de construction. Ceux qui faisaient les routes, vous savez qu'on faisait mal les routes avant qu'on ait les 5 chantiers aujourd'hui. Vous vous souvenez comment les routes étaient faites, 3 mois après, les trous reprenaient. Eh bien,
il y avait des mêmes entreprises qui gagnaient le marché.
Eh bien, j'ai remarqué que au niveau de mon collègue qui engageait les crédits pour les constructions, les marchés étaient passés de gré à gré. Il n'y avait pas de concurrence, d'appel d'offres. Eh bien, malgré que toutes ces factures avaient été engagées, liquidées, je les ai bloquées au niveau du ministère des Finances. Je n'ai pas ordonnancé les paiements et j'ai demandé au ministre, aux inspecteurs des finances d'aller vérifier comment les marchés étaient passés. Et lorsque j'ai vu que les marchés étaient passés de gré à gré, eh bien, de mon autorité, j'ai bloqué les paiements. Et je n'ai pas payé jusqu'à ma sortie. J'ai eu des problèmes. On a alors inventé que je ne payais pas parce que j'avais demandé les commissions et qu'on ne voulait pas me payer les commissions. Voilà comment ça a été retourné.
Vous n'étiez pas le seul ministre à qui on a jeté l'opprobre. Il y a eu aussi avant vous des gens qui ont été pratiquement victimes de toutes ces diffamations.
Mais parce que juste quand on applique la rigueur, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors on peut transférer cette rigueur en aversion.
Voilà, monsieur Marcos, on va revenir encore sur certains auditeurs parce qu'il y a d'autres qui attendent aussi, Étienne, Michel et Mathieu, le temps peut-être de dire un mot sur... parce que vous avez parlé tout à l'heure de la mise en place, depuis 2004, de la Commission de la dette publique intérieure, CDPI, qui traduisait en fait la volonté du gouvernement de la RDC de chercher à favoriser la relance de la production et partant la création des richesses, de l'emploi et de l'épargne. Cette commission, elle a même reçu mission d'assister le gouvernement dans la définition des modalités pratiques pour assurer efficacement les services de la dette publique intérieure. Alors c'était naturellement une des pistes des solutions pour qu'on arrive à payer la dette, mais ces efforts sont à ces jours, en tout cas au vu de tous, inefficaces.
La CDPI, vous en parlez au moment où j'étais ministre des Finances, pour la dernière fois, parce que je l'étais 2 fois, je suis sorti en 2007, jusqu'au 2009-10, je pense que la CDPI existait encore. Mais je crois savoir que la CDPI a été versée dans l'OGDEP. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un seul organe qui est l'OGDEP, qui gère la dette intérieure. Et pour qui analyse les origines, comme je viens de vous dire, les critères de sélection, pour que les dettes puissent être alignées au paiement, ils ont été même certifiés par KPMG, par les inspecteurs des finances. Si on fait appel à tous ces experts pour la certification, c'est parce que justement, on s'apercevait que la dette intérieure contenait à boire et à manger. Il fallait nettoyer pour voir la véracité de ces dettes. Mais une fois que la dette est reconnue, c'est là où on arrive à la problématique que nous soulevons aujourd'hui dans le débat. Il faut que l'État le paye. Mais il se fait que la dette s'est tellement accumulée que les crédits prévus au cours d'un exercice budgétaire n'arrivent pas à
faire face.
Et là arrive alors la sélection suivant l'impulsion qu'on veut donner à l'économie. On dit par exemple, les entreprises routes qui construisent des routes, par exemple. Ce sont des entreprises qui engagent la main-d'œuvre, qui donc vont faire circuler la richesse. Eh bien, on privilégie le paiement de celles-là par rapport aux commerçants qui ont fourni des différentes fournitures, mais qui enrichissent leurs propres poches.
Voilà, on va accorder la parole à Étienne, à Michel, à Mathieu, puis on va revenir à vous, monsieur Marco Bangouli, pour la suite de cette émission. Étienne, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles, bonjour.
Voilà, rapidement, il faut être précis, concis, par rapport à la thématique. Vous avez la parole, Étienne.
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je félicite vraiment l'action menée par la Voix des Sans Voix en dénonçant ce qui se passe. Et aussi, je remercie sincèrement les intervenants qui ont vraiment contribué avec des interventions très pertinentes là. Monsieur le journaliste, je pense que aujourd'hui, dans un état de droit et dans un état qui se respecte, normalement, c'est l'État qui doit subventionner les entreprises, tant publiques que commerciales. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Donc ici, et aujourd'hui, vous comprendrez, monsieur le journaliste, que moins de 15% de la population congolaise a accès à l'électricité et à l'eau potable. Pendant que la plus grande dette reste encore chez l'État. Vous imaginez, est-ce que c'est l'État ici, notre État congolais, a vraiment le souci de sa population? Parce que si on avait vraiment su de cette population, on ferait tout parce qu'on devait d'abord commencer par voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans les entreprises tant commerciales que publiques pour que la cible qui est d'abord la population puisse en bénéficier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La plus grande dette est encore chez l'actionnaire qui est l'État lui-même. Et maintenant, comment l'État doit maintenant contrôler, contrôler ses entreprises publiques ou ses entreprises commerciales? Donc moi, je pense que quand vous venez de dire un intervenant là, c'est en quelque sorte la mauvaise volonté de ces gouvernants qui ne veulent presque pas mettre la population congolaise à l'aise.
Merci beaucoup, Étienne, parce que vous avez parlé de la subvention.
L'explication, la très bonne théorie donnée par
l'invité
qui file le ministre de l'économie lui-même. Mais vous savez, monsieur les journalistes, ce ne sont pas seulement ces théories-là qu'on doit toujours en tenir compte. Il y a la marge budgétaire qui existe dans un État. Alors, comment voulez-vous que quand un budget de la République est accepté, adopté, mais la marge qui est consacrée donc au paiement des dettes et ainsi de suite. Le ministre vient de reconnaître que pendant son époque, il y avait la Banque mondiale qui avait donné quelque chose. Mais est-ce que tout cela, notre État ne peut pas quand même...
Voilà, donc je comprends bien votre préoccupation, Étienne. Votre préoccupation tourne autour de la subvention. L'État doit normalement subventionner ses entreprises pour éviter l'accumulation de dettes. Michel, vous êtes à Matadi et Mathieu à Kananga. Je vous demanderai d'être aussi précis pour que nous avançions avec les débats. Michel, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, compagnie.
Voilà, Michel, vous avez la parole. Si vous pouvez nous aider à être précis et concis dans votre intervention rapidement.
Merci, merci. Vous savez, frère, il y a d'autres choses qui ne demandent même pas de théorie. Même si vous n'êtes pas passé par les bancs de l'école, c'est facile à décortiquer. Vous savez, moi, j'étais préfet. J'étais à l'âge de 11 ans lorsque je suis arrivé pour la première fois dans notre capitale, en provenance du Bas-Congo. La première des choses, j'étais émerveillé par la lumière. Et tout le monde qui était à côté de moi de lui savait que c'était pour sa première fois. Mais aujourd'hui là, lorsque vous arrivez à Kinshasa, vous vous posez la question, est-ce que les mêmes gens que nous trouvons à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand on est en fait, ce sont les mêmes gens qui habitent cette capitale. On dirait que vous avancez bel et bien vers l'enfer. Ce n'est pas bien, mon frère. On sait que l'électricité et l'eau, ce sont des axes principaux qui accompagnent le développement. Pour regarder la télé, il faut l'électricité. Pour préparer, pour que les sociétés puissent travailler, il faut de l'eau. Donc ce qui veut dire que notre gouvernement est en train de commettre un mauvais service à toute la population. Parce que les sociétés qui donnent ce travail ne peuvent jamais donner les maires de mer s'ils n'ont pas les capitaux nécessaires. Malheureusement, ce que nous avons ici, c'est que nos gouvernements, les gouvernements qui se sont succédés, ne savent pas quelle est la raison d'être. Ils devraient être là. Malheureusement, ce que nous avons toujours comme problème, ils ne savent pas à donner
la solution. Merci beaucoup, Michel.
J'ai toujours dit, l'eau. Vous savez, même Moïse le prophète, il a raté Canaan à cause de l'eau. Donc quelqu'un qui vous prive de l'eau, c'est un sorcier. Et moi, je me dis toujours, si vous venez là où j'habite,
Voilà, Michel, merci beaucoup d'avoir appelé de Matadi. On va prendre Mathieu qui est à Kananga. Mathieu, bonjour.
Oui, monsieur Gère, bonjour, merci pour la parole. C'est prophète Mathieu à partir de Kananga.
Oui, rapidement, si vous, votre bon, intervention.
Avant toute chose, monsieur Gère, je crois que notre pays est déjà inscrit à l'OADA. Mais une chose que nous pouvons savoir, c'est de suivre les normes reconnues au climat des affaires au niveau international et national pour être coté parmi les meilleurs. Pour l'état de notre pays, prenons d'abord la question de notre thématique de ce jour. Notre gouvernement doit penser à payer les dettes des entreprises publiques et c'est ce qui pousse ces derniers à mieux travailler et améliorer sa capacité de performance sur terrain. Et les entreprises publiques restent incontournables pour le développement de notre pays. Et c'est un outil de travail du gouvernement. Mais dans notre pays, le gouvernement a beaucoup de dettes des entreprises publiques impayées jusqu'à ce jour. Pas pour manque d'argent, mais manque de volonté politique et de malgestion. Aujourd'hui, plusieurs entreprises de portefeuille d'État sont en faillite et abandonnées à leur triste sort. Or, parmi les îles étaient parmi les poumons de notre économie aux années passées, à l'exemple de Miba et autres, la liste est longue. Or, nous avons l'article 14 de la loi numéro 08/007/2008 relative à la transformation des entreprises publiques qui n'est pas respectée. Le décret du 27 juillet 1934 sur les faillites aussi pas respecté. Mais je sais qu'il y a trois mécanismes pour réguler tout ça, à savoir le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation des biens cessés pour éviter la cessation des paiements ou la cessation des activités de l'entreprise en cas d'échec des mesures préventives.
Merci
avant
beaucoup.
Cessation voilà. Des paiements, le voilà. Traitement des difficultés de l'entreprise qui doit passer par La procédure juridique.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu d'avoir appelé 081-890-4969. C'est pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, je reviens à vous, Marco Bangouli, ministre honoraire des Finances à l'RDC. Vous avez suivi les uns les autres. Il y a eu d'ailleurs des préoccupations qui sont restées pendantes. Vous n'avez pas pu quand même, lors de la fin de la première série, répondre à leurs préoccupations. Alors, on va maintenant ramasser toutes les préoccupations-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aux uns aux autres?
Le problème des entreprises publiques qui génèrent des services qui malheureusement n'ont pas été honorés par l'État et qui constituent aujourd'hui les créances que ces entreprises détiennent sur l'État, la dette publique intérieure. Et parmi ces créances qu'elles détiennent sur l'État, il y a le problème de la dette sociale que j'ai évoqué, parce que les LAC, Zaïre ancienne, on parle du personnel, mais il n'y a pas que LAC, il y a des fonctionnaires de l'État. Il y a beaucoup d'autres, des professeurs, etc., et sur lesquels les cabinets ministériels et qui ont des droits, des anciens parlementaires, etc. Oui. Tout ça constitue la dette sociale. Eh bien, il se fait effectivement que pour prendre le problème des entreprises publiques, parce qu'on l'a évoqué par deux ou trois intervenants, le principe sain pour une gestion saine des finances publiques, si on est arrivé à la transformation des entreprises publiques en entreprises commerciales, c'est pour le désengagement de l'État.
Oui, notamment la régie des eaux. Il y a
désengagement de l'État, l'État est l'actionnaire, c'est vrai, mais l'État ne peut pas être fournisseur de l'eau, fournisseur de l'électricité, constructeur de routes, etc. Non. Le rôle de l'État, c'est les fondements. Quels sont les fondements? C'est la santé, la construction des routes, les écoles, l'éducation. Parce que personne, l'armée, la police, la sécurité, la justice. Là, ce sont des rôles régaliens de l'État, parce que les privés ne viendront jamais faire ça. Mais il faut que la population, il faut que, je crois, maintenant, je crois, avec la maturité de notre démocratie tâtonnante, on est arrivé à comprendre que ce n'est pas... si on parle de privatisation de secteur, ce n'est pas pour que les vautours congolais viennent sauter sur ce patrimoine et fassent leur patrimoine à eux. Non. L'État doit laisser le secteur productif
au privé. Eh bien, je suis heureux d'apprendre que le Parlement vient d'adopter maintenant la privatisation de secteurs de l'énergie. Désormais, dans les mises en place qui vont venir bientôt, eh bien, le secteur privé pourrait reprendre la distribution de l'énergie électrique. Parce que la SNEL a montré ses limites. Eh bien, nous devons, que ce soit l'aviation, que ce soit n'importe quel autre secteur productif et commercial, l'État doit se désengager. Eh bien, le tort que l'État a eu, et qui aujourd'hui a créé des dettes publiques intérieures, c'est de pouvoir tout faire, comme dans l'économie marxiste soviétique, où l'État était le père...
La providence.
Bien.
Oui.
Eh bien, nos États se sont comportés en État-providence. Et ils ont vu qu'ils n'en ont pas les moyens. Aujourd'hui, ça crée des arriérés. Quand j'apprends l'AMIBA à l'époque des Belges, l'AMIBA était privée, avec des partenaires belges privés. Et l'État s'en a accaparé. Et voilà où on en est. Ce n'est pas à l'État de produire le diamant. C'est au privé de produire le diamant. Eh bien, c'est avec raison, l'AMIBA se plaint. L'État doit de l'argent. Mais ces créances ont été générées non pas par le fait de la mauvaise gestion des finances publiques, mais une vision erronée de l'économie.
Oui, à croire vos propos, M. Bangouli, c'est comme si c'est vraiment difficile de sortir de ces sentiers battus, c'est difficile de sortir de cette spirale, parce que notre budget n'est pas aussi consistant, et la part allouée pour le paiement des dettes intérieures qui n'arrive pas à répondre pratiquement à l'évaluation de cette dette, concrètement, je crois que c'est difficile de sortir...
Je n'aimerais pas être pessimiste pour ceux qui nous entendent et ceux qui détiennent les crayons sur l'État, mais je vais donner des réponses par des illustrations. Tout le monde sait que nous avions, puisque nous parlons aujourd'hui de dette intérieure, mais n'oublions pas que nous avions une dette extérieure avant l'atteinte du point d'achèvement et qui était de l'ordre de 13 milliards. Et l'État congolais n'arrivait pas à le payer. Quelle est la solution qu'on a trouvée? On a demandé aux créanciers d'effacer leurs dettes, parce que l'État n'arrivait pas à le payer. Et nous avons atteint, il s'agit évidemment de dettes des grands capitalistes, des grands pays qui ont des moyens, ils ont effacé la dette, à telle enseigne que nous sommes passés de 14 milliards à 4 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire effacer, oublier, plus personne ne viendra réclamer, parce que l'État congolais n'était pas à même de payer.
Mais
c'est pour la dette intérieure. Des différents mécanismes qu'on met en place, la dette existante, à supposer qu'elle soit de 1,4 milliard ou de 800 millions de dollars, ça dépend.
Quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez proposer, par exemple, pour qu'on arrive à...
Les pistes de solutions, quelqu'un avait parlé des excédents budgétaires. Je ne suis pas dans la gestion de la chose publique aujourd'hui, mais s'il existait effectivement des excédents budgétaires...
En tant qu'observateur, et surtout pour avoir eu...
S'il existait, parce que au moment de la loi des finances, on fixe les quotités des crédits pour chaque type de dépense. Et je pense que pour la dette intérieure, on a fixé une quotité. Eh bien, si le gouvernement, et le gouvernement, pas le si, le gouvernement a le souci de payer la dette intérieure, parce qu'elle participe par le paiement de la dette intérieure à la promotion de la création des richesses intérieures par les entreprises de la place. Eh bien, l'État devrait accorder une grande priorité à ce que s'il y a des excédents budgétaires, qu'on puisse allouer ces excédents à compléter les lignes budgétaires prévues initialement pour la dette publique. Mais qu'on fasse le paiement pour éponger ces dettes publiques, on va au principe de budget programmé pluriannuel, au lieu de budget annuel comme nous faisons aujourd'hui. On dit par exemple, d'ici 2016, eh bien, nous allons éponger les arriérés. Ce qui signifie qu'il y aurait un effort d'économie dans d'autres lignes budgétaires pour affecter la dette intérieure qu'on a aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, vous savez, c'est facile, mes amis qui interviennent, qui nous suivent, c'est facile de faire la critique quand on est à l'extérieur de la gestion de la chose publique. Moi qui vous parle, j'ai été plusieurs fois à l'intérieur de la gestion de la chose publique. Eh bien, les priorités qui se présentent quand on gère l'État. Parfois, c'est difficile à prendre des décisions par rapport aux crédits qui ont été alloués. On a parlé des dépenses improvisées. Lorsque une guerre s'éclate dans une partie de la République, quel est ce budget qui avait prévu qu'il y aurait une guerre? Et vous allez laisser cette guerre sans faire les dépenses militaires non prévues pour continuer à payer d'autres? Non.
Oui, monsieur Marco, il y a toujours une rubrique pour les impondérables.
Et ce n'est jamais suffisant. Vous savez, ça dépend de l'ampleur du phénomène. Vous avez, par exemple, une maladie qui ravit tout un territoire qui n'était pas prévu et qui, à l'évaluation, vous dit il faut 10 millions de dollars. Mais vous avez prévu peut-être pour ce cas-là seulement 500 000 dollars. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas laisser l'épidémie continuer. Vous allez puiser dans d'autres crédits. Voilà comment on arrive à des déséquilibres. Donc c'est facile à penser. Ce n'est pas, mathématique, c'est-à-dire bloqué. Non, le budget est dynamique lui-même. À l'intérieur de la gestion est dynamique.
Le temps nous fait défaut. On va prendre juste des auditeurs pour terminer cette émission. Mais il est temps de dire aussi merci à tous les internautes qui nous ont envoyé leurs messages. Il y a Zaché Matina, Debeni, André Lumona, Yves Kassongo, Dominique Ngandou, Rodrigue André Mwamba Kananga, Jude Nziwa depuis le Mumbashi, Innocent Kondoli, Mabogo Nicolas depuis Lilongwe, Léopold Louyamba de Lumbashi dit ceci, l'État doit prêcher par l'exemple, car ces deux géants congolais doivent avoir quelque chose dans leurs caisses respectives afin de desservir la population. Cependant, j'ai suivi la voie des ondes, sur la voie des ondes, que l'État a accepté de payer une partie de la dette envers la régie des eaux. Jacques Sélé Kalolo, il vaut mieux payer pour que les choses marchent dans les normes. Andy Kambalé, depuis Mambasa, ses plaidoyers de cette ONG s'envoient. C'est vraiment déplorable de constater l'insolvabilité de nos dirigeants, l'insolvabilité de l'État, même au plus haut sommet de la nation. C'est fou, vous êtes à Kindu, Lagulois, Kalemi. Malheureusement, on ne peut pas vous accorder plus de 2 minutes. Vous avez chacun 30 secondes pour nous donner des pistes et des solutions que vous proposez. C'est fou, bonjour.
Bonjour.
Oui, rapidement, 30 secondes. Qu'est-ce que vous proposez pour que l'État arrive à payer la dette vis-à-vis des entreprises publiques et aussi d'autres particuliers?
Bon, moi, malheureusement, ce n'était pas une proposition, c'était un conseil que je voulais demander à l'auditeur, puisque nous sommes victimes. Je suis agent de SNCC, la société, la SNCC.
Mais voilà, c'est fou, je crois que on vous attend difficilement. Ok, on parle d'abord Lagulois. Lagulois, vous êtes avec nous à Kalemi?
Bonjour, Jacques Mungembo.
Oui, rapidement. Bonjour, oui, en 30 secondes, votre intervention, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Maguel, l'État est déterminé. En 30 secondes, est-ce que, pour que l'État puisse s'acquitter de la dette exiguë, nous demandons à l'État de ne pas engager des dépenses inutiles en cours de budget comme on a engagé des dépenses pour les consultations nationales. Et puis le Parlement congolais doit se montrer de quoi qu'il est capable d'attirer la responsabilité. Or, ces gens réclament le budget qui n'est pas encore arrivé, soit qui n'est pas encore déposé au Parlement.
Voilà, c'était le débat d'hier. Nous avons fait ce débat. Nous vous informons que lors du Conseil des ministres d'hier, donc on a décidé, que le gouvernement a décidé finalement de déposer la loi sur les finances publiques bientôt donc au Parlement. Je crois que nous suivons de près cette actualité. Merci Lagula. Monsieur Marco Bangouli, ministre honoraire des Finances en RDC. En bref, qu'est-ce qu'on peut conclure dans cette émission? Parce que nous l'avons dit, c'est vrai, l'État doit à beaucoup du côté des entreprises publiques et également du côté des particuliers. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous parlez tout à l'heure de pistes et de solutions qu'il faut pour qu'on en arrive vraiment à cette solution.
C'est intéressant de voir comment la population s'intéresse elle-même à ce problème, la problématique de la dette publique. Donc c'est une préoccupation que les gouvernants, l'État, le gouvernement doit prendre en considération et honorer dans la mesure du possible les créances que détiennent les opérateurs économiques et les sociaux. Comme je dis, il y a deux grandes catégories, le commercial et la dette pour les salaires, etc., les arriérés. L'État doit faire un effort. Mais les pistes de solution, c'est justement d'abord d'honorer la quotité qui est prévue au budget et ensuite de faire l'effort de compléter cette quotité lorsqu'on dégage les excédents budgétaires, de manière à soulager particulièrement la misère
que nous connaissons, parce que nous sommes un pays même en pleine croissance, mais cette croissance n'est pas encore redistribuée dans la population, eh bien il faut soulager cette misère avec cet effort de payer des entreprises publiques qui peuvent générer des richesses dans le pays.
Voilà, il y a quelqu'un qui avait même dit que il y a Théodore Rang de Mujmal qui a parlé de contrôle qui doit être effectué du côté de l'État hein, sur les états financiers des entreprises publiques. Ben alors, je crois qu'à ce niveau, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, il y a eu des réformes, il y a des entreprises qui fonctionnent actuellement juridiquement sous le statut.
Je n'ai pas voulu aborder cette question parce que ici c'était la problématique de la dette publique et non des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Si vous voulez, ça sert à notre débat.
Voilà, on ne manquera pas de vous inviter prochainement, Monsieur Marco Bangouli. Nous rappelons que vous êtes ministre honoraire des Finances en RDC. Vous avez été l'argentier de l'RDC en 2005. Et
la première fois, en 1995 jusqu'à 1997, et puis 2005 à 2007.
Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio pour éclairer la lanterne des auditeurs. À la prochaine.
C'est un plaisir. Merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Koutou et Nadine Foula l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gatton. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la radio Okapi, la fréquence de la paix.